Allez, venez, je vous emmène faire un tour. Vous écoutez Les Balades d'Alice. L'atelier Bivouac, collectif de jeunes paysagistes passionnés et engagés dans une démarche de sobriété, accompagne des mairies, des écoles, des centres d'art pour aménager leurs espaces. C'est le cas à Saint-Félicien avec l'aménagement des jardins d'un ancien couvent. Camille et Pauline m'ont détaillé leur philosophie.
Est-ce que vous pouvez me dire qui est l'atelier Bivouac et depuis quand vous existez, comment vous êtes né, avec quel élan, quel besoin aussi?
Alors l'atelier Bivouac, on est un collectif de paysagistes. On existe depuis bientôt 10 ans. En 2023, ça va faire 10 ans. On est issu, enfin l'origine, l'histoire de l'atelier Bivouac elle vient d'une école. Enfin, on est tous issus de la même école et on était à la base tous. Enfin, il y a une histoire d'amitié, de promo, de même promotion, de voilà. Où il y a eu, quand on était encore à l'école, une grande appétence à travailler ensemble et aussi à dans cette école de Versailles, là, de l'école du paysage de Versailles. On était plutôt voués à être formés pour travailler sur la question du paysage, comment dire, les perspectives d'avenir en sortant de l'école du paysage étaient plutôt liées aux questions de l'aménagement de l'espace public dans des grosses agences de paysage à Paris. Je caricature, mais c'est quand même ça. Oui, et très peu sur la question du milieu rural. Et il y a eu un moment où on s'est dit, mais nous, on a... Enfin, quand on était encore étudiants, on avait une envie de se dire qu'on avait envie de continuer à essayer de travailler ensemble. Et on était tous issus du monde rural. Et on s'est tous dit, mais en fait, on a envie de trouver une manière de pouvoir aller travailler en milieu rural. Et du coup, il va falloir qu'on invente notre métier. Parce qu'en fait, ce métier de paysagiste qui existe dans des agences à Paris, il ne peut pas se calquer. Enfin, pour nous, il ne peut pas s'appliquer de la même manière sur un territoire rural où on est face à des communes qui sont pour la plupart endettées ou qui ont des municipalités qui n'ont pas le temps ni les compétences pour monter des gros projets de maîtrise d'œuvre comme on les connaît. L'envie première, c'était de replacer un peu la question de la frugalité, de replacer à la fois tous les acteurs de la commune autour de la table, de pouvoir avoir une approche aussi sur la revalorisation des savoir-faire et des matériaux. C'était de faire cette question de l'inventaire, quoi, de pouvoir en fait, se dire qu'en milieu rural, il y a des gens qui savent faire plein de choses qui pourraient être mises au service de projets et de comment est-ce qu'on refait du projet ensemble.
Pourquoi vous vouliez être en milieu rural si vous étiez dans une école à Versailles?
Je pense avant tout parce qu'on a été confrontés à des premiers projets en ville. Enfin, c'est pas... Si, il y a eu des projets qu'on a fait à Paris, notamment. Où très vite on a senti les limites en fait de la grosse machinerie, j'appellerais ça, municipale de grosses agglomérations qui sont complètement vampirisées par une hiérarchie alambiquée. Non mais on s'est retrouvé dans des projets où tout prenait un temps monstrueux. Alors, par exemple, typiquement valider un atelier avec des enfants sur un espace public, ça pouvait prendre 6 mois juste pour le fait d'avoir les validations de toutes les commissions et les bureaux jusqu'à arriver peut-être au bureau du maire, on n'en savait rien. Tout ça pour nous dire que non, il fallait qu'on revoie notre méthodologie parce qu'en fait, il aurait fallu prévoir des barrières. Enfin voilà, je caricature, mais c'était un peu ça. Et du coup, se retrouver en fait face à des... déjà une perte énorme de temps pour nous, mais aussi on est face à des situations complètement absurdes. Enfin, clairement, où se dire, c'est une perte de temps pour tout le monde, quoi. Et aussi, c'est l'argent public. On est en train de parler d'argent public quand même. On travaille, on est payé par... voilà. Du coup, et pourquoi le milieu rural? Parce que pour nous, il y a aussi cette question, du coup, de la plus grande possibilité d'inventivité, enfin de comment dire de si c'est ça, de champ, enfin d'action, et surtout d'interlocuteurs assez beaucoup plus directs, et du coup de choses qui vont plus vite et qui sont plus simples. Voilà, et parce que aussi on est très attaché à la question du rural, parce qu'on pense que c'est toutes les communes oubliées aujourd'hui. Enfin, quand on parle aujourd'hui de, il y a tout, on parle beaucoup de, enfin c'est toutes les communes oubliées qui sont déjà obligées de trouver une manière de faire et de s'autonomiser seules.
Dans ce que tu dis, il y a la question de l'échelle, en fait. On est convaincu que c'est en partant de la petite échelle qu'on arrive à réinventer les choses et à faire autrement. Et que quand on est engagé dans la grande machine métropolitaine, en fait, la réinvention, elle a complètement ses limites, parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont énormes à tous les niveaux. Et on n'a très vite pas eu envie d'être identifié dans la catégorie urbanisme transitoire. En fait, il y a aussi ce truc-là, de se dire que nous, on voulait faire du chantier, on voulait faire de la réalisation, sauf que ce qu'on faisait, en soi, il n'y avait aucune raison que ce soit forcément du temporaire. Et or, pour faire les choses comme elles doivent être faites en métropole, il faut le bureau de validation d'ingénieur et tout. Enfin, il y a des questions de normes, de sécurité, d'assurance et tout ça qui sont énormes. Enfin, il y a des enjeux là-dessus qui sont hyper handicapants, en fait, pour pouvoir inventer des nouvelles choses. On est hyper contraint dans notre travail. Et donc, en partant de la petite échelle et en étant dans un autre modèle que celui traditionnel, et ben, on trouve qu'il y a une vraie possibilité de réinvention et de créativité. Et aussi de vraiment parler de la vie des gens, quoi, de se sentir dans quelque chose de vivant, de comprendre que l'espace public, c'est un lieu de vie. Enfin, voilà, c'est là que ça se joue. Et moins... c'est pas tout à fait le bon mot, mais que c'est plus difficilement perceptible, en tout cas quand il s'agit la place des fêtes à Paris, où il y a eu tout un tas de démarches participatives, évidemment aussi, mais en tout cas, les gens s'en saisissent pas du tout de la même manière. Là, on s'adresse à des populations beaucoup plus petites, quoi. Les gens, on les revoit d'une fois à l'autre en permanence, enfin, voilà. On n'a pas dit, c'est que l'atelier bivouac il y a deux antennes à l'atelier bivouac. Il y a une antenne en Ardèche et une antenne en Bretagne, parce que tout le monde n'avait pas envie du même milieu rural. Et donc du coup, les originaires de la Bretagne ont eu envie de retourner en Bretagne. Donc il y a une antenne brestoise.
Et comment vous faites pour faire que les personnes se sentent impliquées en fait dans le projet et s'autonomisent, parce que c'est quelque chose dont vous m'avez parlé.
Je pense qu'on n'a pas de recette, enfin on n'a pas de formule magique pour que ça marche. Des fois ça marche pas du tout, et c'est comme ça. Et des fois ce qui marche, je pense qu'on l'avait pas prévu. Ça peut être un moment de convivialité lors d'une fin de chantier. Enfin, je pense que pour cette question de l'autonomisation du lieu, des projets passés qu'on voit aujourd'hui, sur lesquels on a des retours et où on retourne et on voit qu'en fait on a gardé du lien avec les municipalités, certains habitants. Ce qu'on sait pourquoi c'est devenu autonome, c'est parce que ça a été principalement des gens qui ont pris part aux ateliers, qui sont venus sur le chantier et qui se sont qui ont fait que cet espace public, ça devienne un lieu qui fait partie, enfin, dont ils se sentent appartenir, et du coup ils se sentent en tant que citoyens impliqués sur le lieu. Il y a des projets sur lesquels, suite aux deux années où on a passé, où on a fait des chantiers, il y a un collectif citoyen qui s'est monté. Aujourd'hui, c'est eux qui gèrent le lieu.
Où ça ?
C'est à l'ANAS, en Sud-Ardèche. Voilà, en Bretagne aussi, il y a des lieux comme ça où il y a des équipes municipales qui ont complètement été changées, parce que en fait il y a eu tout à coup des gens qui se sont sentis impliqués par le projet et qui ont voulu faire partie du conseil municipal, alors que ça leur serait même pas venu à l'idée avant. Enfin voilà, des situations qui je pense sont liées à des moments vécus par rapport au projet, plus que voilà. Et c'est une sorte de ça, on sait pas, en fait c'est une mayonnaise qui monte des fois et qui monte pas des fois, voilà.
C'est si vous deviez définir vos valeurs en trois mots.
Nos valeurs, euh... L'anticapitalisme, je rigole. Non, on ne fait pas de terroristes du paysage, on est des gens calmes et on est dans une rébellion pacifiste. Non, je pense que dans nos valeurs, bah, c'est un peu celles qui sont énoncées traditionnellement, mais il y a la question de la frugalité, de la participation et je pense de la valorisation de ce qui est déjà là, en fait, de faire avec, avec l'existant et de ne pas... de pas vouloir absolument réinventer l'eau chaude en permanence, quoi.
Pas vouloir réinventer l'eau chaude en permanence, c'est ça, la troisième valeur.
Non, mais c'est plus la, de se dire que le, enfin, il y a un peu un enjeu quand même en milieu rural sur la question du paysage qui aujourd'hui est un paysage qui peut très vite tourner vers du catalogue et qui serait un peu chaque commune aurait son équipement, ses zones pavillonnaires qui se ressemblent toutes. Enfin, on est un peu même à l'échelle de la France en train d'effacer, enfin de standardiser et du coup de répéter des modèles qui sont, enfin pour nous, des mauvais modèles et qui parlent pas de du territoire et de qu'est-ce qui fait singularité dans un paysage. Donc par exemple à Saint-Félicien, c'est qu'est-ce que c'est la singularité, c'est une des grandes questions quand on est arrivé ici, de regarder qu'est-ce qui fait le paysage de Saint-Félicien et qui ferait que ce qu'on va proposer, c'est on le reverra pas ailleurs, en fait ça fera partie de Saint-Félicien. Et c'est aussi enfin comme tous les plus beaux villages de France, ils ont pas été construits par des paysagistes, donc voilà. À un moment, il n'y avait pas besoin de nous.
Parce que quand j'ai voulu dire réinventer l'eau chaude, c'est exactement pour parler de ça, c'est de dire qu'on fait appel à l'intelligence collective et qu'il y a des très belles choses qui ont été créées et qu'il n'y a pas eu de paysagistes forcément pour les faire. Et que voilà, nous, on se positionne jamais en expert et on essaie toujours d'être assez humble par rapport à notre rapport à nos missions. On essaie de rester aussi en retrait, quoi, à certains endroits. On n'est pas toujours centraux.
Et juste pour conclure, est-ce que comment est-ce qu'on peut vous contacter et qui peut vous contacter?
Ah ben, on peut nous envoyer un message sur notre site internet. Non, je vois. Ah bon, on peut pas. Ah non. Alors, sur notre site internet, il y a... Ah oui, on n'avait pas envie de recevoir plein de messages. Non, sur notre site internet, il y a notre adresse mail. Mais on peut nous contacter soit par mail, soit par mail. Il n'y a pas de nos numéros de téléphone parce qu'on n'a pas de téléphone pro. Du coup, on ne veut pas être dérangé. Non, par mail ou par Facebook. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent maintenant par Facebook. On a une page qui est vraiment beaucoup suivie. Voilà.
Merci à vous d'avoir écouté cette balade. On se retrouve demain à Saint-Félicien pour un nouvel épisode de cette série sur le chantier des jardins du couvent. C'était votre rubrique du jour, les balades d'Alice.